le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour et bienvenue dans ce service protestant sur France Culture. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et nous recevons aujourd'hui le pasteur Samuel Amédraud de l'Église protestante unie de France à Paris. Il nous propose une méditation à partir d'un extrait du chapitre 12 de l'Évangile de Jean.
Bonjour, c'est un bonheur pour moi d'être là avec vous ce matin. C'est un bonheur pour moi de pouvoir partager avec vous un moment de méditation, de spiritualité, de réflexion, de prière et d'écoute. Dans le jargon protestant, on appelle ça un culte, mais ce n'est pas le mot qui est important. Vous choisirez bien celui qui vous correspond le mieux. C'est un bonheur et un honneur aussi. Je me sens honoré et un peu intimidé, il faut bien le dire, de pouvoir prendre la parole ici au nom de celui qui est bien plus grand que moi, pour une sorte de conversation à trois. Vous, moi et lui. Permettez-moi donc de commencer ce moment en lui adressant, en notre nom à tous, ces quelques mots du psaume 103, dans la très belle traduction de Stan Rougier, avec gratitude. Bénis ton Dieu, mon âme. De tout ton être, bénis son saint nom. Bénis ton Dieu, mon âme. N'oublie rien de ce qu'il a fait pour toi. Lui, il pardonne chacune de tes offenses. Il est le médecin de toutes tes blessures. Il te tire de la tombe. Il te couronne d'amour et de tendresse. Il comble tes années de ses bienfaits. Il assouvit ton désir de bonheur. Dieu se nomme tendresse et compassion. Il est le Dieu aux longues patiences. Son amour est inépuisable. Amen. Permettez-moi quelques mots d'introduction au passage que nous allons lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, à partir du verset 20. L'Évangile de Jean a choisi sept signes pour, dit-il, que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. De Cana en Galilée, où il change l'eau en vin, jusqu'à Béthanie, où il redonne vie à son ami Lazare, il n'a cessé de montrer qu'il était lui, le chemin, la vérité et la vie. Monté à Jérusalem pour la Pâque, il s'apprête à repartir auprès du Père, sa mission accomplie.
Il y avait quelques Grecs de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ceux-ci s'avancèrent vers Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandaient avec insistance, « Seigneur, nous voulons voir Jésus ». Philippe vint et le dit à André. André et Philippe viennent et le disent à Jésus. Et Jésus leur répond en disant, « Elle est venue l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen. Je vous dis que si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un veut me servir, le Père l'honorera. »
Excusez-moi, monsieur le pasteur, je suis un mauvais chrétien, hein. Vous ne me voyez pas souvent au culte. Ils sont pas rares, ces chrétiens un peu gênés, qui ressentent le besoin de s'excuser de ne pas être très assidus, mais qui, de loin en loin, gardent quand même un lien avec leur communauté spirituelle. Pour moi, ils ressemblent à ces quelques Grecs de ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer pendant la fête. Eux aussi viennent au temple une fois par an, pour la Pâque, comme on va en famille pour la veillée de Noël. Il est de bon ton en général de les pointer du nez ces demi-mécréants, de les accueillir avec un petit haussement de sourcils sous-entendu. Pour ma part, j'aimerais ce matin les accueillir chaleureusement, sans arrière-pensée. Je suis pasteur, mais ce matin, j'aimerais être passeur, comme ce Philippe-là, dont il s'approche parce qu'il est de la frontière, là-bas, tout au nord, de Bethsaïda en Galilée. Seigneur, nous voulons voir Jésus. J'aimerais, comme Philippe, être l'homme de la frontière, du seuil, de la marge du christianisme. Moi, il m'intéresse, ces croyants pas très pratiquants, ces demi-croyants qui se vivent à la marge, ces plus vraiment croyants. Il m'intéresse non pas pour essayer de les ramener au bercail, mais justement parce qu'ils ressemblent à ces Grecs venus à Jérusalem pour la fête. Qui sont-ils au juste, ces Grecs, qui veulent voir Jésus? Ils sont de ceux qui parlent la culture ambiante, les deux pieds en phase avec le monde dans lequel ils vivent. Ils parlent grec de la même manière que nous parlons tous l'anglais. Ils pensent grec. Pour eux comme pour nous, la raison est primordiale. Ils veulent réfléchir, analyser de manière rationnelle, comprendre, savoir. Ils rêvent grec. Pour eux comme pour nous, le monde est vaste, globalisé, multiculturel. Ils adorent Dieu comme des Grecs. Même s'ils sont probablement des prosélytes ou des craignants Dieu, ils n'ont pas peur de s'intéresser à ce Jésus dont ils ont entendu parler, dénotant d'une ouverture d'esprit et développant en tout cas une sainte horreur du fanatisme radicalisé qui exclut celui qui ne croit pas comme lui. Ils m'intéressent ces gens parce qu'ils portent en eux notre monde tel qu'il va. Pourquoi demandent-ils à voir Jésus? Cette demande-là me semble également d'une grande actualité. Avez-vous remarqué, comme moi, l'intérêt porté à Jésus par nos contemporains qui, par ailleurs, ne s'intéressent nullement aux églises? Mais que veulent-ils au juste ces gens qui veulent voir Jésus? Cherchent-ils un signe? Devenir des disciples? Un miracle? Rencontrer la dernière curiosité dont on parle en ville? Le texte ne dit rien de leur motivation. Comme s'il y avait là un seuil de l'intime à ne pas franchir. Un lieu de conscience personnelle qui échappe à toute injonction à la transparence. Philippe accueille la demande telle qu'elle, sans chercher à la décortiquer, la psychanalyser, la jauger ou la juger. Cela ne nous regarde pas. Vous êtes là? Tant mieux, je m'en réjouis. Je veux vous accueillir tel que vous êtes, en acceptant de ne rien savoir d'autre que votre demande explicite. Vous voulez voir Jésus? De cela aussi je me réjouis. Venez, venez. J'aimerais être de ces hommes d'église, de foi, qui ne s'interposent pas, qui ne font pas écran ou obstacle en imposant des critères, des conditions, des obligations, des contraintes indues, en exigeant je ne sais quelle assiduité au culte, au catéchisme, au baptême, que sais-je encore, comme on exige une traçabilité irréprochable de la viande. Vous voulez voir Jésus? Venez. De manière étonnante, Jésus répond à une question qui n'a pas été formulée. « Elle est venue, dit-il, l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Bonne nouvelle pour vous, vous êtes là au bon moment et au bon endroit. Il est en train de se passer quelque chose d'essentiel. Mais de quoi parle-t-il? Les lecteurs assidus de l'évangile de Jean auront compris immédiatement le sens de cette phrase énigmatique aux accents de fin du monde. Mais pour tous les autres, il faut expliquer. Amen, amen, je vous dis que si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, alors il porte beaucoup de fruits. Voilà la vérité, dit l'évangile de Jean. Celui que vous êtes venu voir va mourir. Et sa mort est le signe de sa victoire, de sa glorification. Autrement dit, le signe ultime et définitif de la pleine présence de Dieu dans ce monde. Et c'est pourquoi seule sa mort peut vous donner la vie éternelle. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Voilà une affirmation qui assume de faire choc. Il faut mesurer le contraste saisissant qu'il peut y avoir entre cette affirmation étonnante. Dieu est présent de manière ultime et définitive dans la mise à mort de cet homme que vous êtes venu voir. Et la réalité culturelle, philosophique et rationnelle de ces Grecs. D'ailleurs, il faut tout de suite dire que cet écart ne s'est absolument pas résorbé 2000 ans plus tard. Pour nous encore, il y a un écart formidable entre cette affirmation théologique, religieuse, spirituelle et la réalité scientifique, culturelle, technologique dans laquelle nous sommes tous immergés. Pour mesurer cet écart, je vous propose d'essayer de décrypter la civilisation globalisée dans laquelle nous vivons. Pour ce faire, rien de tel que de nous mettre à l'écoute de ce qu'on appelle les influenceurs, ceux qui influencent la manière de penser le monde d'aujourd'hui. Que l'on partage ou non leurs analyses, il faut lire les deux best-sellers mondiaux de Yuval Noah Harari, ce jeune professeur d'histoire de l'université de Tel Aviv, qui a écrit une brève histoire de l'humanité appelée Sapiens, ainsi qu'une brève histoire de l'avenir nommée Homo Deus, l'homme-dieu pour ceux qui ne maîtriseraient pas le latin. Il faut également lire les livres du docteur Laurent Alexandre, grand spécialiste français du transhumanisme. Je vous suggère d'ailleurs « Les robots font-ils l'amour ?» son petit livre en forme de dialogue polémique avec Jean-Michel Beignet, un professeur de philosophie à la Sorbonne et par ailleurs résolument athée. Les deux partagent le même constat que la majorité de nos contemporains. La valeur suprême de notre culture contemporaine, c'est la vie humaine. Il n'y a rien de plus sacré dans l'univers. Il suffit pour s'en convaincre de relire la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui pose le droit à la vie comme valeur fondamentale de l'humanité. Et je cite ici le professeur Harari qui décrit notre monde. « Puisque la mort viole clairement ce droit, la mort est un crime contre l'humanité. Nous devons mener contre elle une guerre totale. » Voilà la réalité culturelle dans laquelle nous baignons au moment où notre pays s'apprête à réviser les lois de bioéthique. Quand quelqu'un décède, la première question qui vient immédiatement aux lèvres consiste à demander « Mais de quoi est-il mort ?» La mort ne se pose donc plus comme un problème spirituel ou une question métaphysique, mais comme un problème technique. De quoi est-il mort ? Et tout problème technique doit trouver une solution technique. Le vieillissement des cellules ? La solution se trouve dans l'enzyme télomérase. Des organes défectueux, les cellules pluripotentes induites, dites IPS, offrent déjà des organes de remplacement sans même passer par les embryons. Des cellules cancéreuses ? Les nanotechnologies viendront bientôt résoudre le problème au niveau même de la cellule, avant même qu'il ne soit discernable. Des malformations génétiques sont en passe d'être traitées par une thérapie génique de plus en plus performante. Des soucis de mémoire ? La connexion de nos cerveaux à l'ensemble des données disponibles dans le big data, triées par les algorithmes de l'intelligence artificielle, donnera bientôt la possibilité d'une humanité réellement augmentée. Voilà le grand projet de notre 21e siècle, euthanasier la mort, rien de moins. Le 13 septembre 2013, Google a lancé le projet Calico, avec pour ordre de mission de, je cite, « résoudre le problème de la mort ». La Silicon Valley investit des milliards de dollars dans des startups spécialisées dans les sciences de la vie. Peter Thiel, le milliardaire américain fondateur de PayPal, affirme « Je pense qu'il y a probablement trois façons d'aborder la mort. L'accepter, la nier, la combattre. Pour ma part, je préfère la combattre. » Et Bill Maris, à la tête du fonds d'investissement de Google Ventures, enfonce le clou « Parce que mieux vaut vivre que mourir. » On mesure l'écart avec la réponse de Jésus aux Grecs. Notre civilisation dit « il faut éradiquer la mort ». Jésus répond « Amen, amen, je vous dis que si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » N'allez pas croire que j'agite ici un chiffon rouge par des propos alarmistes, catastrophistes, voire réactionnaires, en ce qu'ils s'opposeraient par principe à la culture scientifique dominante. Bien au contraire, je constate qu'au fond, tout le monde souhaite tirer dans le même sens. Nous, nous en avons envie nous-mêmes. Pas forcément pour nous, rares sont ceux qui rêvent de vivre au-delà de 120 ans, mais pour ne plus avoir à subir le deuil, la souffrance terrible de perdre ce que nous aimons. Les scientifiques en ont envie, parce qu'ils y jouent leur raison d'être. C'est leur vocation de chercher et d'essayer de dépasser les limites de la connaissance. Pourquoi s'arrêterait-il? Comme le disait Hannah Arendt dès 1958, dans « La condition de l'homme moderne », les hommes ne sont pas faits pour mourir, mais pour innover. Les financiers et les fonds d'investissement en ont envie parce qu'ils y voient de juteux bénéfices potentiels. N'allez pas croire que parce qu'ils investissent des milliards de dollars, ces messieurs de Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qu'on appelle les GAFAM, soient des philanthropes. Ce sont de redoutables businessmen. Ne pensez pas non plus que ce ne sont là que des chimères inaccessibles parce que toutes ces technologies ne sont pas encore vraiment maîtrisées et que nous aurions encore la possibilité de les interdire. Il faut accepter la loi dite de Tchekhov, du nom du célèbre dramaturge qui a mis en évidence un principe de réalité tout simple. Une arme qui apparaît à l'acte 1, disait Tchekhov, sera forcément utilisée à l'acte 3. Autrement dit, si nous transposons ce principe à notre situation, ce qui est possible techniquement, quelqu'un l'utilisera forcément, tôt ou tard. Tout cela se fera inévitablement un jour ou l'autre. C'est une question de temps. Quelle conclusion faudrait-il en tirer? Il est possible d'interpréter cette réponse de Jésus comme une sorte de choc des civilisations entre nos convictions et notre culture. Est-ce à dire que les chrétiens sont appelés à un conflit ouvert avec le monde? Résolument et calmement, je veux dire ici que je ne le pense pas. De même qu'il n'est pas envisageable de renoncer à ses convictions sans se renier, il n'est pas non plus possible d'échapper à sa culture parce qu'elle nous baigne et qu'elle nous imprègne totalement. Cela ferait de nous soit des schizophrènes déchirés intérieurement, soit des sectaires en rupture avec la réalité. Il ne sert à rien de prendre une posture de dénonciation. Il me semble beaucoup plus productif, porteur de fruits, comme dit Jésus, d'essayer de comprendre notre monde de l'intérieur, pour voir jusqu'où nous pouvons aller avec lui, sans renier nos convictions. Je me demande si, quand Jésus parle de garder sa vie pour la vie éternelle, sa promesse ne ressemble pas au moins un peu à la quête de ceux qui cherchent à résoudre le problème de la mort. L'écart ne me semble pas si grand qu'il faille y voir un fossé infranchissable. Quand l'évangile de Jean affirme que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, n'est-il pas possible de parler avec ceux qui veulent tuer la mort? Quand l'apôtre Paul déclare dans la première lettre aux Corinthiens « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort », ne fait-il pas entendre la même protestation que les post-humanistes de ce siècle qui veulent euthanasier la mort? Ici comme là, j'entends la même protestation véhémente contre la souffrance inutile, contre la décrépitude et l'humiliation de l'humanité, contre le néant qui voudrait nous faire croire que la mort a toujours le dernier mot. Pour accéder à la sagesse de vivre, il n'est pas forcément nécessaire de s'imaginer déjà cadavre, en anticipant sa propre mort, comme le pensaient les stoïciens. Il me semble bien plus fructueux de méditer sur la vie, la joie, le bonheur, en compagnie de Spinoza. Bien plus que des êtres pour la mort, comme le disait Heidegger, ne sommes-nous pas tous des êtres contre la mort, comme l'affirmait Emmanuel Lévinas. Je ressens qu'il y a en nous une belle insolence de l'appétit de vivre, et je m'en réjouis. Mais ne pensez pas non plus qu'il y a adéquation, identité parfaite entre les deux quêtes. C'est à dessein que je parle ici de mesurer l'écart. Parce que ne soyons pas naïfs, c'est vrai qu'il faut regarder en face cette volonté de maîtrise un peu pathétique. Le refus de la finitude peut révéler parfois une véritable haine de la condition humaine dans tout ce qu'elle peut avoir de fragile et de vulnérable. Il ne faut pas se cacher qu'il y a derrière une tentation désespérée de se fabriquer soi-même. Mais n'est-il pas possible d'y voir aussi, et en même temps, une formidable opportunité de collaborer à l'œuvre créatrice de Dieu ? Non pas dans la confrontation, dans le désir fou de prendre la place du Créateur, mais dans la volonté d'œuvrer dans le même sens que lui, dans la même direction. La volonté de celui qui m'a envoyé, dit Jésus, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. Que personne ne se perde. Quel projet magnifique! Il me donne envie de suivre Jésus, pour me mettre à son service. Si quelqu'un veut me servir, dit-il, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Mettre nos forces créatrices au service du projet de Dieu pour la vie. N'est-ce pas une formidable aventure? N'est-ce pas là notre vocation de chrétien? Il est vrai également que le risque de générer une humanité à deux vitesses est bel et bien réel, et que cette capacité de faire reculer la mort pourra devenir un privilège que certains s'arrogeront parce qu'ils en ont les moyens. Mais avouons-le, cette fracture sociale existe déjà, dans la réalité. C'est parfaitement vrai, et il ne faut surtout pas se bercer d'illusions au sujet d'une prétendue générosité naturelle de l'humanité, je n'y crois pas du tout. Mais en même temps, n'est-il pas tout aussi vrai qu'il y a là une possibilité d'œuvrer ensemble contre toutes ces morts prématurées qui nous anéantissent ? Au fond, jusqu'ici, les progrès de la science n'ont pas permis de dépasser ce fameux plafond biologique des 120 ans. Le véritable apport de la médecine vient du recul important de la mortalité infantile. En fait, on ne vit pas tellement plus vieux, on se contente de mourir moins jeune. Et c'est déjà énorme. Allons-nous refuser l'espoir aux parents anéantis par la mort d'un enfant ? N'est-ce pas exactement ce que Jésus fait quand il ressuscite la fille de Jaïrus ou son ami Lazare ? Je crois en accord parfait avec ma foi chrétienne que d'unir mes forces avec celles des scientifiques et des politiques pour donner à tous les moyens de vivre, de vieillir et de rester vivants jusqu'à la mort, pour reprendre le magnifique titre d'une collection posthume de réflexions de Paul Ricoeur. Et plutôt que de cautionner ceux qui réclament le suicide assisté, je préfère de très loin faire un bout de chemin avec celles et ceux qui se donnent pour que les soins palliatifs offrent à tous la possibilité de rester vivants jusqu'à leur mort. Peut-être est-ce là le secret d'une vie pleine, une vie réussie, rassasiée de jours, comme dit l'Ancien Testament à propos des patriarches. Mais il n'en demeure pas moins qu'il reste un écart irréductible, une distance qui s'oppose à un consensus mou avec le monde. Si le grain ne meurt pas, dit Jésus, il demeure seul. C'est là une parole d'une grande simplicité et d'une grande sagesse. La mort reste une réalité parce que celui qui ne meurt pas est condamné de facto à rester seul, inutile, sans porter de fruits, une vie pour rien. Et il y aurait à mes yeux quelque chose de terrifiant dans la solitude de celui qui, petit à petit, aura vu mourir tout son entourage et qui resterait là, seul, à attendre ce qui n'arrivera jamais. À quoi bon vivre plus de 120 ans, en fait ? Pourquoi faire ? Et avec qui ? Imaginez un instant une vie d'ennui, de vacuité, contraint à la contemplation infinie du rien. Assigné à résidence devant « Touche pas à mon poste » ou « Les anges de la télé-réalité ». L'enfer. Pour ce qui me concerne, il me semble possible d'aborder la mort dans la confiance et l'insouci de ce qui va m'arriver. Dépréoccupé de mon sort et sans réel besoin d'imaginer ce qui va se passer après. C'est là tout l'écart qu'il faut mesurer entre l'envie d'une vie qui ne se finit pas et l'espérance d'une résurrection après la mort. L'envie, voyez-vous, est toujours égocentrée. Elle ne joue que pour son camp. Comme le grain qui ne meurt pas, elle demeure seule. Elle se décline en jeu, j'y ai droit parce que j'en ai envie. À l'inverse, l'espérance, elle, est forcément universelle. Elle est pour tous, pour vous comme pour moi. Pour les demi-croyants qui ne viennent qu'une fois par an, comme pour les assidus de la relation quotidienne avec le Dieu des vivants. Autrement dit, ces recherches scientifiques ne collaborent avec le projet de Dieu que si les découvertes servent l'humanité tout entière, sans exception. De même, ces lois de bioéthique que nous révisons ne peuvent être capturées pour des revendications d'une catégorie de la population. Elles se doivent d'être au bénéfice de l'ensemble de l'humanité, sinon elles seront instrumentalisées par l'égocentrisme des envies de quelques-uns. L'espérance d'une vie pleine ouvre grand les bras, et elle embrasse toute l'humanité. Et elle embarque avec elle le règne animal, comme le règne végétal, tout ce qui grouille à la surface de la terre, comme le dit la Genèse, dans l'expérience de la pure bonté d'exister. Elle embrasse aussi l'ensemble de l'histoire, et elle pose un regard confiant sur l'avenir, comme par ces mots formidables de l'Apocalypse qui nous propulsent vers Pâques. « Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. » Celui qui était sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Que ces dernières paroles qui ferment la Bible soient pour vous comme une bénédiction qui vous accompagne dans tout ce que vous vivez, et qu'elle nourrisse votre espérance pour l'ensemble de l'humanité, et avec elle l'ensemble du règne animal et végétal. Voici, il fait toutes choses nouvelles. Permettez-moi de terminer ce moment de culte par quelques mots d'une prière qui remet devant Dieu notre confiance et notre espérance pour demain. Seigneur, devant toi, et grâce à toi, nous cultivons la gratitude. Nous voulons te remercier pour ta grâce et pour la vie, pour tout ce qu'elle nous donne de bon, la santé, l'amour, l'amitié, le travail, la famille, l'Église et aussi la recherche scientifique. Et s'il arrive que nous perdions ces choses précieuses, nous voulons encore remercier la vie des obstacles qui nous font grandir, qui nous apprennent l'humilité ou le détachement, qui nous font voir ce que nous ne voulions pas voir. Nous voulons vivre dans la gratitude et l'espérance, le cœur grand ouvert, en résonance avec l'âme du monde, parce que nous le savons, Seigneur, tout est grâce. Amen. Et bon dimanche à vous.
Ainsi s'achève ce service protestant. Nous étions aujourd'hui avec Samuel Amédreau, pasteur de l'Église protestante unie de France à Paris. Merci à Clotilde Pivin et à Jean-Michel Bernot pour la réalisation et la prise de son de ce service protestant proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Retrouvez cette émission sur les sites franceculture.fr ou protestant.org, vous pourrez la réécouter ou télécharger le texte. Et si vous désirez le texte par courrier, vous pouvez écrire au service radio de la Fédération protestante de France au 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Restez à l'écoute, à suivre dans un instant le journal, puis Talmudique avec Marc-Alain Wacknin. Et je vous retrouve à partir de 16h pour les conférences du Carême avec le pasteur Laurent Schlumberger. Aujourd'hui, le Dieu mobile.